Et voilà, c'est parti pour ce plateau. Bonjour à toutes et à tous. Cette émission est enregistrée à Vébron. Merci Thomas, c'est vraiment cool. C'est normal, on n'a pas, voilà, j'ai pas de technicien, pas d'administratrice. Pourquoi notre technicien est à l'hosto et notre administratrice l'a envoyé. On est à Vébron sur la place du village pour ce désormais incontournable et important rendez-vous lausérien organisé par la Redingote. La soirée E chez nous. Au profit cette année de Réseau Éducation Sans Frontières. Et je suis en compagnie de Cléo. Bonjour Cléo.
Bonjour Ben. Bonjour tout le monde.
Plaisir. Tu es membre de l'asso La Redingote et dans un instant tu nous contextualiseras la soirée et l'association. Évidemment.
Avec plaisir.
Il y a du vent en plus, c'est vraiment génial. Avec nous Thomas, bonjour.
Bonjour.
Tu as été bénévole à Calais et avec toi nous allons revenir et faire un point sur la situation catastrophique qui a bien lieu en ce moment à Calais. Et en troisième partie d'émission, nous serons avec Marianne et Patricia du réseau Éducation Sans Frontières au précieux asso. On en parle tout à l'heure, on en fera, voilà, il y aura des pauses musicales, mais tout sera fait au montage. Et voilà, et en toute dernière partie d'émission, un poème de Warsonshire, Home, que tu as lu, Cléo.
Oui, avec beaucoup d'émotion. J'espère alors, que ça vous en fout.
Ouais. C'est parti, Cléo. La Redingote, c'est quoi ?
La Redingote. La Redingote, c'est une asso qui a été créée il y a 4 ans par 3 jeunes femmes qui étaient sur Vébron, qui faisaient du cirque et du théâtre. C'était surtout à destination des enfants. Nous, quand on est arrivé à Vébron, Léa nous a dit « On fait comment pour dissoudre une asso ?» Et on lui a dit « Mais non, on ne dissout pas une asso, on la remonte, on refait autre chose et tout ça. » Donc on a repris un petit peu le bébé. Et on est parti sur plutôt de l'événementiel, des concerts, des spectacles, plutôt pour adultes. Donc ça a duré un an comme ça à peu près. Et puis Thomas nous a rejoint sur l'asso. Et Thomas arrivait de Calais. Et donc il nous appelait des fois de Calais avec voilà, ses doutes, ses craintes, ses coups de gueule. Parce que franchement, c'était trash ce que tu as vécu, mais tu en parleras tout à l'heure. Et puis on s'est dit, en fait, nous en Lozère, on fait quoi ? On fait quoi pour les migrants ? On fait quoi ? On est bien confortable là, entre nos vallées. Et puis voilà, on se sent très peu actif, quoi. Et on s'est dit, ben voilà, là, Utopia, donc c'était l'asso pour laquelle bosser Thomas, a besoin de nous, il a besoin d'acheter des bâches. Et donc on a décidé de créer un premier événement qu'on a appelé EC Nous, du coup, donc il y a 3 ans. Et on a réussi à récolter 1000 euros. Donc on a donné 500 euros à Utopia, 500 euros à Refugee Community Kitchen. Merci. Donc qui a permis donc à Utopia d'acheter des bâches en grande quantité et à Utopia et à RCK de financer 1000 repas chauds pour les migrants de Calais. La deuxième année, on avait décidé de donner les bénéfices donc de toute la soirée à Saint-Hippolyte-du-Fort. On a réussi à récolter 2000 euros. Et puis voilà, et là cette année, ben, à vous de jouer, on verra bien combien on récolte et qu'est-ce que RESF va pouvoir faire avec.
Alors tous les ans vous choisissez une asso, cette année c'est RESF. Pourquoi RESF et comment vous choisissez surtout ?
Ben, la première année c'était en fait par rapport à, voilà, à ce que nous ramenait Thomas un petit peu de ce qui se passait à Calais. Il n'y avait pas de caleçon, il n'y avait pas de bâche, il n'y avait pas de tente, il n'y avait pas de duvet en fait. Et quand bien même il y avait des duvets, en fait ils se faisaient rafler par les CRS en une nuit. Et du coup on s'est dit ok, là il faut ramener de l'argent là-bas. Donc c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. On n'a pas tellement réfléchi, c'était là-bas l'urgence et on a foncé sans trop réfléchir. Et la deuxième année on s'est dit en fait ce serait bien, enfin il y a des gens qui font des choses ici aussi. Et ce serait bien de relocaliser un petit peu cet argent qu'on fait avec les gens d'ici, pour les assos d'ici qui bossent avec les migrants. Et donc on a contacté Saint-Hippolyte-du-Fort qui nous a dit bah, bien sûr on veut bien de l'argent. Évidemment on en a besoin parce qu'au quotidien bah, c'est nous qui payons les repas, c'est nous qui payons les loyers et qu'il y avait besoin d'argent là-bas aussi. Et puis cette année, c'est en discutant avec Patricia, qui est membre d'RESF.
Qu'on recevra tout à l'heure en plateau. Ouais.
Voilà. Voilà, qu'on a décidé ça. Voilà, rester dans du local. Il y a eu de nouveau de l'argent aussi pendant la fête de la soupe qui a été envoyée à Utopia. Je pense qu'on continuera et à Saint-Hippolyte aussi. Ouais. Voilà, on continuera à en envoyer à Utopia si c'est possible. Et puis favoriser aussi les assos du coin qui font des très belles choses et voilà.
Alors évidemment, pour récolter un peu d'argent, on a toujours besoin d'un côté festif. Dis-moi ce qui va se passer ce soir.
Ce soir. D'ici une heure, là, quand le plateau radio sera terminé, on aura un spectacle de Brigitte qui travaille le théâtre masqué, c'est d'actualité. Et donc qui va nous jouer des textes d'un artiste dont on ne va pas citer le nom. Des très beaux textes d'un artiste très reconnu et voilà. J'en sais pas beaucoup plus, mais...
Mais il y a vraiment un truc à dire, c'est qu'en fait, au-delà du chapeau à 8 euros, l'entrée à 8 euros, c'est un chapeau qui sera mis à contribution, récolte d'argent pour les jeunes migrants qui galèrent et qui filent la patte aussi ici aujourd'hui, c'est ça hein.
Carrément, qui nous ont bien aidés aujourd'hui, hier.
Toi, aujourd'hui, la Redingote, c'est une asso qui fonctionne bien. À ton avis, pourquoi à Vébron, il y a une telle énergie de choses qui se passent, comment c'est possible?
Mais c'est parce qu'on est là. Non, j'en sais rien, je sais pas. C'est vrai que quand on est arrivé, c'était un peu... C'était un peu le flop Vébron. Et puis là, ouais, il y a plein de gens qui veulent s'installer. Il y a la Tchopa. Je pense que la Tchopa, il est vraiment pas pour rien. Et d'ailleurs, merci à la Tchopa pour voilà, tout ce qu'elle nous a offert, tout le soutien qu'elle nous offre, voilà, financièrement, moralement. C'est une asso qui nous soutient beaucoup. Je voudrais remercier Biojour aussi. Biojour qui nous a donné la quasi-totalité des courses pour le catering et pour aussi notre buvette.
Ouais. Mais ici, là, votre événement, il prend quand même une ampleur assez extraordinaire.
Ouais, carrément. Après, je pense qu'il y a le contexte aussi, la Covid. Les gens ont envie de danser, les gens ont envie de faire la fête, ont envie de se détendre un peu. Tu rigoles. À distance, évidemment. D'ailleurs, je vois que tout le monde porte son masque, c'est bien. Non, franchement, je saurais pas l'expliquer, mais en tout cas, merci à tous d'être là, quoi.
Alors évidemment, eux c'est nous, c'est une fête. Et d'ailleurs, on salue aussi Léaman qui a fait l'affiche, cette très très belle affiche, vraiment que moi qui m'a beaucoup touché. Maintenant, pour le coup, on va parler un peu de tragique. Qu'est-ce que
j'ai oublié de finir la programmation. J'en étais là en fait. C'est là où je me suis perdue. Voilà. Donc après le spectacle de théâtre. Donc on aura Bolidley et sa fille et son harmoniciste qui vont jouer devant leur Cadillac, un petit one-man band, mais du coup c'est un three-man band, plutôt blues rock. Après il y aura Raskanine, c'est un groupe local dont voilà, les copains qui viennent jouer pour nous gratuitement, merci beaucoup à eux, qui vont nous jouer, c'est leur deuxième concert si je ne m'abuse.
Le premier, c'était chez Bertrand.
C'est ça, ouais. À domicile. Et puis, il y aura Sweat Like an Ape. Et Sweat Like an Ape, si vous ne connaissez pas, accrochez-vous. Vous allez suer comme des singes. C'est ça que ça veut dire. Voilà, ce sera la surprise. Et ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Sweat Like an Ape, c'est du bonheur. Du bonheur.
Thomas, t'es un mec super engagé. T'as été bénévole à Calais. Pour quel assaut?
Pour Utopia 56 et pour d'autres assos qui bossent avec eux là-bas aussi, mais un peu RCK, l'auberge des migrants, Salam.
Alors, quel était le quotidien là-bas? Toi, en tant que bénévole et pour les migrants aussi, quoi.
C'est tous les jours compter des tentes, des sacs de couchage, des caleçons, enfin tout ce qui peut servir à habiller, préparation de repas, amener les gens à l'hôpital, les amener en hébergement citoyen quand ils ont besoin et quand il y a des hébergeurs citoyens. Et après aussi c'est pour voir les CRS qui essayent de bloquer les distributions, qui ramassent quasi tous les jours les tentes, les sacs de couchage, les couvertures, Donc c'est confrontation avec la police, des distributions, des sourires, des pleurs, des...
Et puis aussi peut-être gérer les communautés entre elles aussi, des fois c'est pas facile, il y a des conflits, ou alors est-ce que ça se passe bien?
Il y a un peu de conflits, mais en général ça se passe bien.
Cette année, il y a quelques semaines, dans un silence médiatique assourdissant, il y a eu le dernier camp de Calais qui a été démantelé. En fait, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on en a très 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 peu entendu parler.
Quand Darmanin est venu à Calais, ils ont vidé quasi totalement Calais en fait. et notamment un point où il y avait quasi 1200 personnes. Et en fait, c'est pour faire place nette. Et très souvent, quand les ministres de l'Intérieur viennent à Calais, bah, ils vident, ils mettent les gens soit dans des centres ou au centre dans des centres d'accueil, ou soit au centre de rétention administratif. Et en fait, régulièrement, les gens, deux jours après, ils arrivent, enfin, ils reviennent, quoi, en fait, parce qu'ils se font mettre dehors. Ou,
Le but du jeu, c'est vraiment, pour les migrants, c'est de passer en Angleterre. Et c'est toujours le cas. Donc, quoi qu'il arrive, on démantèlera jamais Calais à 100%. Ils reviendront toujours là.
Bah, la grosse majorité de ceux qui sont à Calais veut aller en Angleterre. Les migrants en France ne veulent pas tous aller en Angleterre. Mais il y en a plein qui se retrouvent à Calais parce qu'en fait, en France, le système de demande d'asile prend des plombes. Souvent, ça peut durer 3 ans. 3 ans où ils ne sont pas vraiment accueillis, pour la grande majorité. 3 ans où il y a des recours de minorité. Parce que souvent, l'État se bat pour ne pas reconnaître les plus âgés des mineurs, pour ne pas avoir à les prendre en charge. Donc, c'est le système d'accueil français fait en sorte que les gens sont dans l'attente, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont souvent pas le droit d'aller à l'école, ils n'ont pas d'hébergement. Donc, en fait, bah, ils se disent, si la France ne m'accueille pas, bah, je vais continuer plus loin, quoi.
Alors, on va évidemment parler du confinement et des dernières nouvelles que tu as de là-bas. Quelles sont les dernières nouvelles ?
Pour Calais, en fait, depuis... pendant le confinement, déjà, l'État a arrêté de donner une majorité des services, du peu de services qu'il offre. Donc, les repas... depuis 2 ans, ils donnent des repas chauds. Là, pendant le confinement, c'était des chips, du pain, du fromage et des jus de fruits. Donc dès mars, alors qu'il fait quand même froid. Du coup, ça, c'est les assos qui ont repris en charge la totalité des vrais repas distribués à Calais. Ils ont arrêté les douches aussi, sous prétexte de ne pas confiner les gens dans les bus qui faisaient les trajets jusqu'au point de douche. Mais donc, en fait, ils n'ont plus accès à un système pour se laver, quoi. Ils ont arrêté aussi les distributions d'eau potable là où il y avait la majorité des gens, à peu près 1000 personnes. Par exemple, à Grande-Synthe, en ce moment, il y a 400 personnes qui n'ont aucune aide de l'État, donc il n'y a rien qui est distribué par l'État, ni point d'eau, ni rien. Là, Utopia 56, ils donnent 3000 litres d'eau par jour depuis début mai. Après, sinon, là, dernièrement, mercredi dernier, à Paris, il y a un camp de 2000 personnes qui s'est fait évacuer, où il y a déjà des gens qui reviennent parce que, en fait, les évacuations sont pas... il n'y a rien qui est mis en place derrière, vraiment, pour soit aider à l'asile ou soit trouver une solution pour ces gens-là. Donc, les gens reviennent. Il y a aussi un camp où il n'y a que des mineurs qui sont en recours, donc qui n'ont pas été reconnus mineurs par l'État. Et donc ça, c'est un camp qui est géré par MSF, Utopia 56 et d'autres assos parisiennes. Donc ils sont une centaine depuis un mois et demi, je crois, en tente dehors, en attendant que l'État fasse quelque chose pour eux, quoi.
Toi, en tant que bénévole, tu comprends que telles décisions sont prises. Enfin, c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Ça doit te dépasser complètement et...
Ce qu'il y a de fou aussi, c'est qu'on dit que la France est le pays des droits de l'homme, alors qu'en fait, il n'en est rien. Que l'Europe aussi, notamment à Vébron, il y a 2 ans, je crois, il y a eu une conférence sur l'Europe qui accueille les migrants et tout ça, alors qu'en fait, l'Europe fait tout pour pas accueillir, en fait, j'ai l'impression. Et tu peux me répéter ta question ?
Comment l'État arrive à de telles décisions, en fait ? Ouais, ça te dépasse aussi. Ouais, ok. Question suivante. Non, mais je comprends. Aujourd'hui, être bénévole à Calais et venir en aide aux migrants qui vivent dans des situations compliquées, catastrophiques même, c'est vraiment quasi quelque chose d'impossible. On parle de contrôle tu parlais des CRS, des contrôles de police. Hein, c'est vraiment absolument affolant.
Oui, puis on se sent un peu impuissant parce que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc. Les tentes qui sont prises. Souvent, ils arrivent et ils donnent un périmètre. Et donc en fait les gens doivent enlever les tentes qui sont dans ce périmètre là, donc en fait ils les mettent de l'autre côté de la route. Le peu de tentes qui restent en place, elles sont emportées avec, et les gens avec, souvent pour juste quelques heures, mais ils les emmènent quand même au centre de rétention administratif. Et donc c'est une sorte de jeu du chat et la souris, ou de qui va gagner entre ceux qui donnent les tentes et ceux qui les prennent. Après, dans le quotidien, il y a aussi les violences policières qui sont faites aux exilés. Ça peut aller de poser une famille avec des petits-enfants devant la gare à 2h du matin, parce qu'ils les sortent du centre de rétention, donc ils les mettent devant la gare, sans couverture, sans rien. Après, il y a tout ce qui est violence... des jeunes qui se font courser pour rien, qui se font mal parler, qui se font amener à 20 km de Calais, et ils les laissent comme ça dehors en disant galère à revenir à Calais, juste pour les faire chier en fait. Après il y a les bénévoles qui se font aussi embêter quoi, et ça c'est plus des amendes sur les véhicules, s'il n'y a pas la carte d'identité on va au poste aussi pour quelques heures, ils cherchent la petite bête.
On sait aujourd'hui que le délit de solidarité a été, entre guillemets, aboli. Toi, t'y crois pas du tout. Il y a d'autres façons de faire pour les flics.
Ça, c'est sûr. Hein. Enfin, j'en ai vu qui donnaient des bonbons à des gamins et qui étaient humains. Mais j'en ai vu aussi qui étaient inhumains, en fait. Et que ce soit dans la façon de parler aux gens ou de faire leur taf, en fait. T'es pas obligé de jouer au gros bras pour dire... pour faire respecter l'ordre, je pense. Bon, je dis de la merde. Mais...
non. Toi qui parles justement aux migrants qui sont là, vraiment, il faut s'accrocher pour vivre dans des situations pareilles. Comment tu les sens? Est-ce qu'ils sont désespérés, tristes, en colère? Comment ils se sentent en fait vraiment?
Moi, souvent, je vois une joie de vivre et une envie d'arriver là où ils veulent aller qui est hallucinante. Pour moi, ils donnent des leçons. Ils peuvent donner des leçons à tout le monde parce qu'entre ce qu'ils ont traversé, mais voilà, faut toujours aller devant et ils baissent pas les bras, quoi. Et même souvent, c'est eux qui réconfortaient les bénévoles en disant non mais t'inquiète, ça va aller, quoi. Et tu fais ce que tu peux, mais ça va, mais merci. Enfin, c'est des remerciements la plupart du temps.
Du coup, ça, c'est ça qui te donne aussi, toi, par exemple, mais à d'autres, et ils sont des centaines là-haut à se bouger, mais même en Lozère, on en parlera tout à l'heure avec Marianne et Patricia, à se bouger, encore essayer d'avancer, parce que la joie de vivre, elle est en eux, quoi.
Oui. Oui, puis qu'ils sont pas partis de chez eux pour rien, et donc, puis voilà, c'est... Je sais pas comment expliquer cet état d'esprit qu'ils ont, ouais.
En tout cas, c'est la meilleure des choses. Est-ce que t'y crois, t'es positif ou plutôt négatif?
Sur ce que fait l'État, je suis plutôt négatif. Sur tous les gens qui se bougent, je suis ultra positif. Enfin, je suis ultra content. Non, j'ai dit positif pour l'État ou non?
Non, t'as dit.
Ah non, d'accord, ça va.
Dit négatif,
j'ai eu peur. Mais ouais, il y a plein de gens qui se bougent de partout et ça c'est génial, quoi, que ce soit en associatif ou pas. Mais après d'ailleurs, en fait depuis le confinement, y a plein d'assos qui font de l'hébergement citoyen qui se retrouvent sans hébergeur parce qu'ils ont peur d'héberger à cause du Covid. Donc il y a Utopia via une asso qui s'appelle Accueillons, qui est partout en France, à peu près partout en France dans les grandes villes, qui cherchent des hébergeurs à fond. Il y a aussi moins de bénévoles parce que c'était un peu compliqué. Les gens avaient un peu peur aussi d'aller sur le terrain. Il y a aussi le fait que, vu qu'il n'y a pas de festival cet été, ou moins de festivals, il y a beaucoup moins de tentes à récupérer. Parce que souvent les gens laissent leurs tentes en vrac sur le festoche, donc les assos vont les récupérer pour pouvoir les laver et après les redonner. Donc il y a un gros appel aux dons, que ce soit financier ou matériel, et aussi d'hébergeurs et de bénévoles, que ce soit à Calais, Paris, Toulouse, Tours, Rennes, Lyon, Florac, Montpellier, Mende, partout.
Tu retournes quand là-haut toi?
Sûrement fin d'automne et cet hiver.
Est-ce que tu as une idée de ce à quoi tu vas t'attendre ?
Bah, des rires, des larmes et...
et beaucoup d'espoir. Je voudrais juste qu'on applaudisse Thomas, mais vraiment pour tout ce que tu fais, mais pas que toi, hein, mais à travers toi, c'est vraiment toutes les personnes qui se battent pour que des gens soient bien, juste, et vivre en France. On va continuer ce plateau avec Marianne et Patricia qui vont nous rejoindre vraiment tout de suite. On a pause musicale avec Macadam Bazar. Ça s'appelle Les Matraques. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi.
Merci Ben.
On sait tous qu'ici c'est chez toi, ouais, mais la loi, elle dit pas ça, ça recommence tous les 6 mois. Moi j'ai peur que tu reviennes pas, comme si c'était la dernière fois qu'on te voit. Pourquoi tu peux pas rester là? Je sais pas, je sais pas.
Ça fait 8 ans que t'habites ici, t'as de la famille, t'as des amis, tu travailles pour gagner ta vie. C'est pas facile, mais ça te suffit, la seule chose qui te hante la nuit, c'est la police qui t'attrape, t'oblige à quitter ton pays. C'est la justice qui te frappe.
Bienvenue au pays des lumières, des droits de l'homme, des maquillés.
Alice en paye les frontières, c'est pas vraiment ton compte de fait.
À l'école et sur les chantiers,
il fait pas bon être étranger.
Les dominants, les dominés, ils voudraient tout bien ranger.
Et nous on comprend pas pourquoi être français ça rime à quoi. Des sorcières à l'extrême droite, les mêmes idées, les mêmes matraques. Et nous on comprend pas pourquoi être français ça rime à quoi. Des sorcières à l'extrême droite, les mêmes idées, les mêmes matraques.
C'est tellement simple ces quelques mots, la liberté, l'égalité. Ego ça dépend du drapeau, pour être libre faudra payer.
La France cultive la misère,
les colonies n'ont pas changé.
Chacun son monde, chacun sa guerre,
et les moutons seront bien gardés.
Ça met l'audace, la prétention de vouloir vivre un petit peu mieux.
Salaud brutal, putain d'arabe, enfoiré, plombier polonais.
Nous qu'avons un peu voyagé,
on pourrait dire sans rigoler,
que parmi tous les étrangers,
les pires sont peut-être bien les Français.
Chrétien Mohamed, mon frère, venez avec nous, on vous embarque.
On va déchirer les frontières et foutre le feu à toutes ces cartes.
Ça fait 100 000 ans qu'on se promène,
sur la terre c'est pas prêt de changer.
C'est notre nature, c'est dans nos gènes,
on est tous faits pour immigrer.
Retour en plateau avec Marianne, bonjour.
Bonjour.
Et Patricia, bonjour.
Bonjour.
Quel partage de micro. Vous êtes toutes les deux bénévoles à RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Alors, on a une vague idée de ce que c'est, mais concrètement, RESF, c'est quoi ?
Alors, c'est RESF 48, je précise. Pour, voilà.
C'est vrai.
Réseau Éducation Sans Frontières, en fait, ça a été. C'est un réseau de. C'est pas une association, il n'y a pas de président, pas de. C'était un réseau de personnes bénévoles, résistantes, on va dire ça comme ça,
qui aidons les... En Lozère, on aide en fait tous les sans-papiers, tous les migrants à leur régularisation. Voilà.
Tu disais c'est un réseau, donc ce n'est pas une association. On va parler tout de suite, avant de les oublier, de l'association Liridona. C'est quoi ?
Alors l'association Liridona, c'est justement une association que RESF 48 a ouverte en support justement pour tout simplement pour qu'on puisse avoir un compte en banque. Parce que les familles, quand, heureusement pour elles, par exemple, elles sont régularisées. Il faut savoir que ce n'est pas gratuit. Là, le titre de séjour coûte très cher par personne. Et donc, comme les gens n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont aucun revenu, ils n'ont pas un centime d'avance. Donc, on leur avance l'argent pour leur titre de séjour. Et puis, dès qu'ils trouvent un travail, ils nous remboursent comme ils peuvent, avec des petites sommes par mois, pour qu'on puisse continuer avec les suivants.
C'est quoi être bénévole à RESF aujourd'hui ? Surtout à RESF 48, hein. parlons de toi.
Bah, disons que oui, parce que je ne sais pas si tous les RESF fonctionnent de la même façon que nous. C'est pour ça que j'ai précisé, ce n'est pas du tout une question de cocorico. Être bénévole, c'est être présent d'une manière ou d'une autre. Soit on peut aider les gens de façon juridique, les accompagner en préfecture, s'occuper un peu de leur dossier. Mais ça peut être aussi tout plein de choses, quoi. Par exemple, il y a Brigitte qui est là, qui va nous faire un spectacle tout à l'heure, qui s'occupe beaucoup de jeunes. Elle les occupe, elle les fait travailler un côté artistique. Alors c'est vrai qu'elle nous disait tout à l'heure, par exemple, qu'eux ne voient pas trop à quoi ça va leur servir. Mais nous, on pense que c'est quand même très important au niveau de leur santé mentale. Elle les sort de l'ennui quotidien. Sinon, ils n'ont aucune occupation, ils n'ont rien, quoi. Donc ça peut être ça, ça peut être avoir des gens qui sont d'accord pour héberger quelqu'un, des fois qui peut être sans toit ou à la rue. Enfin voilà, c'est en fait... toutes les volontés sont accueillies.
C'est ça,
sont les bienvenues.
Être dans le réseau RESF, être bénévole pour Réseau Éducation Sans Frontières, c'est pas seulement être prof et s'imaginer ce qu'on s'imagine en fait.
Ah mais pas du tout, surtout en Lozère, parce que dans les grandes villes, il y a des associations qui sont plus spécialisées pour les enfants, pour les mineurs, pour les travailleurs sans papier, pour les couples. Il y a par exemple les amoureux au banc public qui s'occupent spécialement des couples mixtes. Et nous, ici, on n'a pas tout ça. Donc en fait, tous les gens, ils ont un numéro de téléphone, c'est le nôtre, quoi. Voilà. Donc on aide tout le monde.
Ça, Patricia, RESF, c'est aussi l'accueil de mineurs isolés. C'est aussi des personnes qui sont prêtes à accepter n'importe quoi comme boulot parce qu'ils ont été rebutés du droit d'asile. C'est plein de choses.
Oui, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans des situations très différentes. Alors, par exemple, pour ce qui est des gens qui demandent l'asile et à qui l'asile est refusé, ce sont souvent des gens jeunes, des gens en famille avec des enfants qui trouvent des promesses d'embauche en CDI, dans des métiers qu'on peut dire en tension, des métiers où il n'y a pas beaucoup de gens qui postulent pour ces postes. Et lorsqu'ils demandent un titre de séjour à la préfecture, ça leur est très souvent refusé. Alors ça veut dire que ça met en difficulté d'une part des employeurs lozériens, et puis aussi c'est une chance quand même pour nous ici en Lozère de pouvoir accueillir des familles, des gens jeunes, dynamiques, avec des enfants et qui ont envie de rester. Donc voilà, il y a une politique nationale qui est de toute façon, contre laquelle de toute façon, enfin là on ne peut pas cautionner, mais en plus c'est encore plus énorme en Lozère, où on se dit que bah oui, ça serait bien qu'on puisse accueillir des gens jeunes, des gens qui ont envie de rester.
Si on parle de politique et justement d'élus locaux, est-ce que vous avez des rapports avec eux ? Comment ça se passe vraiment concrètement là-dessus ?
Alors les élus locaux, il y en a qui soutiennent le réseau Éducation Sans Frontières. Hein. À une époque, on a fait des parrainages, il y a pas mal de maires peut-être un peu plus sur le sud de Lozère d'ailleurs, qui se sont impliqués. Il y a aussi des conseillers départementaux qui soutiennent des situations. Voilà. Après, c'est de toute façon la préfecture qui tranche.
Et tu me disais hors antenne que au niveau de l'accueil, aujourd'hui, ça se dégradait de plus en plus.
Alors, c'est vrai que nous, on n'assiste pas souvent au rendez-vous en préfecture, mais ce qui ressort depuis quelques temps, les gens reviennent et ils sont vraiment pas bien. Ils ont l'impression d'avoir été maltraités, qu'on les prend pas pour des êtres humains. Voilà, moi, je peux raconter juste une toute petite histoire qui s'est passée. C'est une famille, le père a trouvé un contrat d'embauche et c'était juste au début de la période de confinement. Donc l'employeur lui a dit finalement, bah non, je ne peux pas vous embaucher. Et le fait qu'il pouvait avoir un titre de séjour parce qu'il avait cette promesse d'embauche. Donc en fait, entre-temps, il a trouvé un autre contrat d'embauche et donc il l'a signalé à la préfecture qui l'a convoqué. Parce qu'en fait, son titre de séjour, c'était un titre de séjour salarié, qui donc est lié à un employeur précis. Donc la préfecture avait le droit de lui reprendre son titre de séjour, de réexaminer sa situation avec son nouvel emploi et de lui donner après éventuellement une nouvelle carte de séjour. Ce qui s'est passé, c'est que là, il y a une personne à la préfecture qui a demandé les titres de séjour et qui, devant les gens, les a déchirés. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas obligé de déchirer ce papier que ces gens ont mis du temps à espérer, à attendre, comme ça, devant leurs yeux. Il me semble d'autres façons de procéder avec plus de respect, même si ce n'est pas fait volontairement de l'irrespect, j'en sais rien. Hein, mais de faire attention aux gens quand même qui sont en face de nous.
C'est clair. Est-ce que tu es positif pour l'avenir ou vraiment, est-ce qu'il y a des raisons d'y croire un tout petit peu?
Ah ben, il y a toujours raison de croire qu'on peut faire quelque chose et qu'on peut aider. Après, sur la politique nationale, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en fassent. Après, oui, à notre niveau, oui, bien sûr, comme l'a dit tout à l'heure Marianne, il y a des tas de façons d'aider les gens, de les soutenir. On ne gagne peut-être pas à tous les coups, mais quand même, voilà, on peut les aider, bien sûr.
Marianne, justement, c'est une bonne nouvelle. Vous allez, via l'Iridona, en fait, récolter un petit peu de sous ce soir, le plus possible, on l'espère. À quoi cet argent va servir?
Alors, comme je disais tout à l'heure, à aider les gens à payer leurs frais. C'est-à-dire que c'est ce qui coûte le plus cher, en fait. Voilà. Autrement, il y a aussi beaucoup d'aide d'urgence, hein, quelquefois. Acheter des couches, acheter du lait pour des bébés, dépanner des gens qui n'ont vraiment plus rien, et voilà. Parce que quand les gens sont déboutés, tant qu'ils sont demandeurs d'asile, ils sont hébergés au CADA, au centre d'accueil de demandeurs d'asile à Chambon-le-Château. Mais dès qu'ils sont déboutés, on les met dehors et ils n'ont plus rien, quoi. Ils n'ont plus droit à rien. Donc il y a souvent des situations qui sont très très difficiles.
Et pareil, la même question, toi t'es positive?
Pas vraiment. C'est vrai qu'on a. Enfin, moi, personnellement, j'ai souvent envie de fou baisser les bras. Et puis bon, on se. Entre nous, on se motive. Il y a toujours quelque chose à faire. Bon, de toute façon, ne serait-ce qu'un sourire, n'importe comment. Et voilà.
Aujourd'hui, voilà. RESF 48, ça représente à peu près combien de personnes, vous le savez ou
On a beaucoup, beaucoup de sympathisants. Après, on est beaucoup moins, c'est sûr, à être sur le terrain. Mais quand on fait des appels à manifestation, quand on voit quand même qu'on a, voilà, chaque mois depuis plusieurs années, là maintenant, je ne sais plus combien, on organise un cercle de silence à Mende, chaque troisième mercredi du mois. Et en fait, il y a toujours, voilà, on ne s'est jamais retrouvé à Trois-Pelées. Il y a toujours, il y a une fontaine, on arrive toujours à faire un cercle autour de la fontaine. Donc, oui, voilà. ça remet de l'espoir.
Pas de victoire, mais quand même des beaux combats menés encore et encore. Merci à toutes les deux. Tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Vas-y, avec plaisir.
Oui, je voulais dire deux mots parce qu'on a, j'ai parlé des familles donc, qui étaient déboutées du droit d'asile. Mais c'est vrai qu'après, en Lozère, en ce moment, il y a aussi un certain nombre, même beaucoup, de mineurs qui sont isolés, un peu comme partout en France, certes. Et ces mineurs ont un entretien avec l'aide sociale à l'enfance et souvent on déclare qu'ils ne sont pas mineurs et ça les met dans des situations qui sont des situations d'attente où ils ne sont considérés ni comme majeurs ni comme mineurs parce qu'ils font des recours mais ça prend beaucoup de temps. Les papiers sont envoyés pour être expertisés et pendant tout ce temps-là, et ben voilà, ils sont là, ils attendent. La plupart du temps, ils ne sont pas scolarisés, ils ne peuvent pas, par exemple, faire un apprentissage, puisque pour ça, il faut avoir un statut clair. Donc, ils peuvent attendre un an, deux ans. Et c'est vrai que c'est quand même, enfin pour moi, c'est vraiment très grave ce qui se passe dans toute la France et en Lozère par rapport à ces jeunes. Alors voilà, nous, on a un rendez-vous avec la présidente du conseil départemental. Je pense qu'ils s'en soucient aussi, mais voilà, je ne sais pas s'il y a un manque de moyens, c'est ce qu'il y a. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et il y a beaucoup de jeunes qui sont, moi je dirais, déminorisés au faciès. C'est-à-dire, on dit, oh, bah, vous faites plus que votre âge, vous avez le papier, mais ça, on leur fait subir des tests osseux qui sont de toute façon pas justes, à un an, voire deux ans près. Et on bloque, en fait, ces jeunes qui auraient envie d'avancer, qui auraient envie de faire une formation, qui auraient envie de bouger et qui ne peuvent rien faire. Voilà.
Merci à toutes les deux, merci Marianne, merci Patricia. Le réseau Éducation sans frontières, oui, elle doit être sans frontières, oui, ça doit continuer à vivre. Et vraiment bravo pour tout ce que vous faites. Bravo à toutes les deux. Vive la redingote, vive RESF et vive toutes les personnes qui se bougent. Merci beaucoup.
Warzenshire a écrit ce poème, il s'appelle Homme. Personne ne quitte sa maison. À moins que sa maison ne soit devenue la gueule d'un requin. Tu ne cours vers la frontière que lorsque toute la ville court également, avec tes voisins qui courent plus vite que toi. Le garçon avec qui tu es allé à l'école, qui t'a embrassé, ébloui, une fois derrière la vieille usine, porte une arme plus grande que son corps. Tu pars de chez toi quand ta maison ne te permet plus de rester. Tu ne quittes pas ta maison si ta maison ne te chasse pas. Du feu sous tes pieds, du sang chaud dans ton ventre. C'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire. Jusqu'à ce que la lame ne soit sur ton cou. Et même alors, tu portes encore l'hymne national dans ta voix, quand tu déchires ton passeport, dans les toilettes d'un aéroport, en sanglotant à chaque bouchée de papier. Pour bien comprendre que tu ne reviendras jamais en arrière, il faut que tu comprennes que personne ne pousse ses enfants sur un bateau, à moins que l'eau ne soit plus sûre que la terre ferme. Personne ne se brûle le bout des doigts sous les trains, entre des wagons. Personne ne passe des jours et des nuits dans l'estomac d'un camion en se nourrissant de papier journal, à moins que les kilomètres parcourus soient plus qu'un voyage. Personne ne rampe sous un grillage. Personne ne veut être battu, pris en pitié. Personne ne choisit les camps de réfugiés ou la prison, parce que la prison est plus sûre qu'une ville en feu, et qu'un maton dans la nuit vaut mieux que toute une cargaison d'hommes qui ressemble à ton père. Personne ne vivrait ça, personne ne le supporterait, personne n'a la peau assez tannée. Rentrez chez vous. Les noirs, les réfugiés, les sales immigrés, les demandeurs d'asile qui sucent le sang de notre pays. Ils sentent bizarres, sauvages. Ils ont fait n'importe quoi chez eux et maintenant ils veulent faire pareil ici. Comment les mots, les sales regards peuvent te glisser sur le dos? Peut-être parce que leur souffle est plus chaud, comme un bras arraché. Parce que ces mots sont plus tendres que 14 hommes entre tes jambes. Ou ces insultes sont plus faciles à digérer qu'un os, que ton corps d'enfant en miettes. Je veux rentrer chez moi. Et ma maison est comme la gueule d'un requin. Ma maison, c'est le baril d'un pistolet. Et personne ne quitte sa maison, à moins que ta maison ne te chasse vers le rivage. À moins que ta maison ne dise à tes jambes de courir plus vite, de laisser tes habits derrière toi, de ramper à travers le désert, de traverser les océans. Noyer, sauver, avoir faim, mendier, oublier sa fierté. Ta survie est plus importante. Personne ne quitte sa maison jusqu'à ce que ta maison soit cette petite voix dans ton oreille qui te dit « pars, pars d'ici tout de suite ». Je ne sais pas ce que je suis devenue, mais je sais que n'importe où, ce sera plus sûr qu'ici. »